Bonjour à tous, à toutes ainsi qu'aux autres, c'est un plaisir de vous retrouver après des vacances très éprouvantes, pleines de rebondissements et de motards qui passent dans ma rue. J'ai avec moi ce soir...
Plus motard que jamais.
Merci, ça commence. J'ai avec moi justement Mathieu Blanco, bonsoir Mathieu.
Je m'excuse pour cette blague.
Alors, mais tu fais bien. J'ai avec moi une équipe de déjantés que peut-être vous connaissez déjà. J'ai donc un certain capitaine. Bonsoir, Captain.
Bonjour.
Salut
tout le monde.
J'ai avec moi aussi Quakos, un de ses acolytes. Bonsoir, Quakos.
Et
acolyque et alcoolique.
Voilà, j'ai avec moi Manox. Bonsoir, Manox. Et j'ai avec moi Lord ton père.
Bonsoir les amis.
Alors je sais pas.
Lord ton père fait aussi des voix dans les dessins animés. Et le grand jeu de la soirée, c'est de deviner dans quel dessin animé il fait la voix d'un personnage.
D'accord. J'étais pas au courant, mais je vais essayer de trouver moi aussi.
Bah, si d'ailleurs tu dois faire gagner 1000 euros, non?
Ah bon? Non.
Je crois que
non.
Je les ai gagnés déjà. Non.
Reprenons. Tiens, d'ailleurs, c'est vrai, vu qu'on en parle, il y a eu le concours qui a été tiré il y a pas longtemps, et j'ai oublié de faire le post pour le gagnant, et ça sera corrigé lorsque vous aurez ce podcast, vu que je vais faire ça juste après. Aujourd'hui, on a trois gros sujets, on va dire, enfin quatre, pardon, gros sujets. Le premier gros sujet, c'est le cinéma en 3D. Alors, c'est comment que ça marche jusqu'à est-ce que ça va sauver le monde ? Enfin, pardon, le cinéma. ensuite, on va parler des consoles, hein, avec un S comme dollar. Donc, ça va parler pépette ce soir. Et ensuite, sinon, on finira par une petite découverte d'un podcast dont j'ai toute l'équipe sur Skype. Et j'espère qu'ils ne vont pas tous parler en même temps, sinon ça va être injouable.
On va essayer. Je vais essayer de les mater ici à tout
ça. D'accord, prends la batte de baseball qu'il y a sous ton fauteuil. et on va parler aussi d'une nouveauté qui a fait très peur à toute l'équipe de Pod Radio. C'est Mathieu Blanco et Mac JT qui a décidé d'arrêter son podcast, hein, donc il a décidé d'arrêter Mac JT, hein, voilà, donc voilà, justement on en parlera à la fin de l'émission. Bon, pour ceux qui sont déjà au courant, oui je sais, il n'y a pas de suspense, mais pour les autres, il y en a déjà un peu plus. Voilà, alors bien, si vous le voulez bien, nous allons donc commencer par le cinéma en 3D. Et donc, rapidement, qu'est-ce que c'est le principe, comment que ça marche, la 3D au cinéma, expliqué à la ménagère de moins de 50 ans, ça donne quoi Mathieu?
Alors, le principe de base, en fait, il y en a plusieurs parce que forcément, il y a différentes sociétés, il y a plusieurs technologies, ils se battent comme des charognards pour imposer leur modèle économique. Mais on va dire que le principe de base de l'image en relief, c'est ce qu'on appelle la stéréoscopie. Et c'est un truc qui date quand même des années 1500. 1500, 1600. Donc c'est quand même...
Ça a mis tant de temps à arriver au cinéma ? Putain, ils sont...
Donc en fait, c'est le genre de truc que t'as des fois sur les paquets de céréales, c'est les images où t'as une image avec un décalage de l'image un peu en rouge et un peu en bleu.
Ah ouais, avec comme les dinosaures à la sortie de Jurassic Park.
Voilà, exactement. Bah,
t'avais
exactement
des lunettes
ça.
Dans la boîte de céréales et t'avais un dinosaure en 3D à l'arrière.
Voilà, et ben en fait la stéréoscopie c'est le fait de prendre une photo, je sais pas, d'un objet, d'une personne, de n'importe quoi, et en fait d'avoir deux photos mais d'un angle décalé, c'est-à-dire tu as deux photos d'un même objet à un même instant mais avec un décalage au niveau de l'angle, un très léger décalage. Et ce qui fait que quand tu as deux photos, un temps donné avec juste un décalage entre les deux angles et que tu les assembles en même temps, c'est ton cerveau qui va faire le reste. Le fait d'avoir deux angles différents sur la même photo, et bah ton cerveau va faire les perspectives, va te permettre d'évaluer la distance et de faire le relief dans ta tête.
D'accord, c'est comme l'holophonie mais en visuel.
C'est exactement comme l'holophonie en visuel, c'est-à-dire quand tu regardes quelque chose avec tes yeux, l'angle...
Mais parce que quand tu regardes les choses avec les pieds, ça marche déjà beaucoup moins bien.
Ouais, non, mais si tu le regardes... Bah, mais justement, là on rigole, mais par exemple, les personnes qui n'ont pas les yeux alignés, bah, on appelle ça le strabisme.
Oui.
Et là, on entend quelqu'un qui tape sur le clavier, c'est génial.
Non, là, il défonce son clavier à ce niveau-là, tu vois. Mais...
Donc en fait, voilà, les personnes qui, par exemple, n'ont pas les yeux qui sont alignés, c'est ce qu'on appelle le strabisme, et ben ont des problèmes pour évaluer les profondeurs, les distances. Et ben c'est exactement le même principe, sauf qu'on l'a mis dans une petite boîte, donc ça s'appelle l'astéréoscopie.
Il marche aussi avec les borgnes.
Voilà.
Par définition, un borgne qui va au cinéma voir un film en 3D, il se fait chier.
Voilà. J'ai un peu un doute quand même sur le fait que ça marche pour lui.
Ben, non, justement, ça marche pas. Je veux dire, la 3D, il la verra pas, quoi. Pardon.
Peut-être deux bornes, sinon deux bornes l'un à côté de l'autre.
Ouais, ah, avec
en 3D.
Et donc, il y a une technologie qui s'est vachement démocratisée. Vous connaissez peut-être le IMAX. Ça se fait beaucoup aux États-Unis.
Ah bah au Futuroscope aussi, dans l'absolu.
Au Futuroscope et à la Cité des Sciences.
C'était des pellicules où l'image était plus grande dessus, non? C'est pas ça? C'est des pellicules qui étaient plus larges, non? C'était pas ça le principe de l'IMAX?
Oui, déjà, la dimension des pellicules n'est absolument pas la même, mais en fait, la technique utilisée, c'est pas du tout ce qu'on connaît actuellement dans les cinémas Pathé ou Gaumont ou encore UGC qui font de la 3D. C'est en fait une technique qui a été développée avant qu'on ait les cinémas numériques. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez deux projecteurs totalement classiques et vous rajoutez en fait ce qu'on appelle des filtres polarisants dessus. Donc, pour ceux qui font de la photo... Est-ce que vous savez ce que c'est la polarisation de la lumière?
C'est quand tu fais des photos en Antarctique ou en Arctique. En Arctique, non, c'est pas ça? Ah non, c'est la boussole sur l'iPhone, la polarisation.
Non, en fait, c'est juste que la lumière, elle est réfléchie partout. Voilà, c'est ce qui nous permet de voir les choses. La lumière est réfléchie. Et en fait, les ondes de la lumière, elles vont dans tous les sens et elles sont vectorielles, elles vont dans tous les sens. Et le fait de les polariser, ça permet d'avoir un signal rectiligne. C'est-à-dire, au lieu que les faisceaux de lumière aillent dans tous les sens, on peut leur donner une direction bien précise. En gros. D'accord. Et donc, ce qui fait que quand tu vas projeter ton film avec cette technologie, tu vas utiliser deux projecteurs avec deux filtres polarisants qui vont envoyer les ondes de lumière dans certaines directions pour qu'en fait, au final, les deux yeux de chaque personne reçoivent deux images différentes et que le cerveau interprète cette différence par justement de la profondeur et donc de la 3D.
D'accord, et donc je suppose d'instinct que plus les images sont... Enfin, je parle que une fois que tu as superposé les images, plus les profils, on va dire, sont décalés l'un par rapport à l'autre, plus le spectateur va avoir le truc le plus proche, on va dire.
Voilà, et donc effectivement plus... et donc ça, c'est une technique qui était utilisée donc, à la Cité des Sciences, au Futuroscope et aussi dans la technologie IMAX, parce qu'on n'avait pas encore ce qu'on retrouve actuellement et de plus en plus dans les cinémas près de chez nous. C'est ce qu'on appelle les cinémas numériques qui nous proposent de la projection numérique en 3D. Là, c'est un système totalement différent et c'est celui-là qui visiblement s'est imposé et va s'imposer dans les prochaines années. Tu sais, t'es obligé de mettre des lunettes sur ta tête. Mm-hmm. Oui. Et jusqu'à présent, quand tu allais par exemple à la Cité des Sciences, au Futuroscope, à l'IMAX ou dans les parcs d'attractions, si tu regardais un film plutôt long, au bout d'un moment, tu avais mal à la tête. Ouais. Et pourquoi? Parce que justement, ton cerveau, il est obligé, au moment de la fusion des deux images, de travailler pour faire tout ce qui est perspective et évaluer la distance de chaque image. Donc en fait, le problème de cette technologie, c'est qu'elle faisait mal à la tête et qu'elle était réservée aux parcs d'attractions et tous ces trucs. Et donc là, justement, avec les cinémas en relief qu'on a près de chez nous, on peut se mater un film de 2h30 sans avoir mal à la tête grâce aux lunettes qui nous distribuent et au fait que ce soit des projections numériques. C'est-à-dire qu'en fait, les lunettes qui te filent, il y a une petite pile à l'intérieur. Elles sont légèrement plus grosses que les lunettes qu'on avait jusqu'à présent, parce que en fait les verres des lunettes sont des verres à cristaux liquides. Exactement, les cristaux liquides, bah, ton écran il est fait en cristaux liquides, ton téléphone portable c'est du cristaux liquide. En fait, les verres que tu as sur ces lunettes sont en cristaux liquides et vont 50 fois par seconde cacher l'image, l'œil gauche ou l'œil droit. Tout ceci est synchronisé avec le projecteur qui va diffuser deux fois plus d'images qu'un projecteur classique, ce qui fait qu'en fait, tout d'un coup, le projecteur va projeter une image pour l'œil droit et l'œil du projecteur gauche va être caché tout noir.
Non, l'œil des lunettes gauche.
Voilà, l'œil des lunettes gauche, ouais. D'accord. Et ceci 50 fois par seconde, ce qui fait que c'est imperceptible à l'œil nu et ça permet en fait de diffuser 50 images pour l'œil droit et 50 images pour l'œil gauche par seconde. Ce qui fait que le cerveau n'a plus besoin de faire tout ce travail de fusion et ça va permettre à l'utilisateur non seulement d'imaginer la perception et le relief de chaque objet et en plus de ne pas avoir mal à la tête au bout de 2 heures de film. D'accord. Voilà.
Manox, Manox voulait prendre la parole. J'espère que depuis... Vas-y Manox.
Alors,
Ah, merci. Alors moi, je voulais prendre la parole parce que je suis une ménagère de moins de 50 ans.
Oula.
Et la dernière fois que j'ai testé les lunettes 3D, c'était la semaine dernière. Et avant ça, c'était quand j'avais 10 piges à la Géode. Donc c'était avec effectivement les lunettes.
Pas excellent.
Non, non. Donc vert rouge, si je me souviens bien. Quoi.
Donc, voilà.
J'ai vécu vraiment la différence. J'ai vu le film Prep là-haut, quoi.
Remercions la Harley Davidson qui démarre dans la rue.
J'étais en train de me dire, il y a un tracteur à côté de chez toi.
Dans un garage. C'était
vrai, quoi. C'était une chasse d'eau.
Donc,
j'étais pas le cul par terre en train de chialer barrage de bonheur, hein, mais c'est quand même autre chose que ce qu'on avait précédemment. Hein. Donc, bon, ça vaut le coup quand même de se bouger le cul et de raquer 10 euros pour tester ça une fois. Quoi.
Ah, c'est 13 euros carrément. C'est...
Ah oui, c'est 13 euros, ouais, c'est vrai. Ouais. 13 euros. Ceci dit, on peut pas garder les lunettes, hein, faut les rendre à la fin.
Ouais, et ça c'est.
T'as
tes portiques de sécurité.
Et alors chez vous peut-être, mais. Chez nous, non.
Je suis pas tout à fait d'accord, c'est que moi à la fin j'avais quand même un peu mal au crâne.
Mais ça c'est parce que les lunettes étaient trop serrées, monsieur.
Ah, par contre le cerveau de bonheur c'est un peu trop petit.
Je le penche pas, deuxième session.
Non, mais c'est pas mal leur truc, c'est pas mal. Par contre, bon, j'aurais pu m'en passer.
Ouais, mais justement, c'était ma question suivante, et merci de me l'avoir sabordée. Normal, remarque en même temps pour l'apéro du capitaine. Est-ce que ça vous a apporté un réel plus? Est-ce que cette expérience, enfin, est-ce que ça a augmenté l'expérience? Est-ce que ça vaut vraiment le coup, quoi? Et là, je vais m'adresser à quelqu'un qui a pas parlé, donc au hasard, Quacos.
Oui, je suis là.
Oui. Est-ce que ça vaut le coup? Dans les deux sens du terme, hein, le coup c'est OUP et le coup c'est OU accent circonflexe T.
En ce qui concerne le coup c'est OUT, je pense que oui. Enfin bon, c'est dans les places, pour n'importe quel film, c'est minimum 10 euros. Ouais,
10 euros, c'est
rajouter 2 euros de plus pour voir en 3D, je pense pas que ce soit ça qui soit vraiment un frein. Maintenant, en ce qui concerne le coup, est-ce que ça apporte un plus vraiment au film, à l'histoire ou quoi? J'en suis pas persuadé. Est-ce que justement le fait d'avoir le côté 3D, le côté un peu relief, ça casse pas un peu l'effet film, cinéma, pellicule qu'on avait
Je m'attends pas à ça sur un Godard, mais je vois pas l'intérêt sur un Godard, mais pour beaucoup de films d'action, d'horreur, ça pourrait...
Je pense que la vraie innovation serait que le sang me gicle à la face, et là je serais d'accord.
Ou les films de vous, c'est sympa ça.
Ben, écoute, tu sais que t'es pas loin. Tu sais que c'est
pas loin.
Mais c'est le secteur du X a toujours fait innover. Hein. C'est grâce à eux, le DVD, la cassette vidéo. Ouais. C'est eux qui ont lancé partie du mouvement.
C'est grâce à eux, Internet. Quoi. C'est quand même beaucoup plus sympa de télécharger sur Internet que d'aller au vidéoclub.
Bah c'est plus discret déjà. Mais la question n'était pas est-ce que le film de cul va être en 3D, mais, mais tu sais, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure où tu attendais que le sang te gicle au visage, sache que, et comme pour la 3D ça peut mettre du temps à arriver, au Futuroscope par exemple, on peut déjà avoir ça. Par exemple, il y a un petit film où il y a un tronc d'arbre qui parle, oui ça arrive, ils étaient bourrés ce jour-là où ils ont fait le scénario, qui donc t'éternue à la gueule, et en fait t'as un petit truc qui t'envoie de l'eau avec un petit parfum boisé dedans, ouais, et t'as vraiment l'impression que le truc t'éternue à la face.
Quand tu à la Géode, il me semble, où il passait en fait un film où tu te baladais dans la prairie, et puis il avait balancé du parfum en fait de fleurs, tout comme ça.
Voilà, bah, c'est un peu le principe.
Un film d'horreur où les mecs passeraient dans les rangs pour balancer les soupçons dessus, ça serait pas mal.
Reprenons. Il y avait Lord ton père qui avait pas parlé, sauf erreur. Donc,
c'est lui, il n'a pas parlé.
Ouais.
Il parle toujours de lui.
Bah, moi, je suis pas convaincu par ce système de cinéma 3D parce que ça gonfle toujours un peu les gens de mettre des lunettes sur le nez, surtout ceux qui en portent déjà d'origine. Et je sais pas si dans cette salle certains ont vu le film Strange Day qui était sorti, je crois, en 99.
Non. Non, ouais, ça me dit rien. J'étais pas né à ce moment-là. Non, je déconne.
Ah oui, c'est vrai, Filgou a 7 ans. Bonjour, t'as demandé l'autorisation à tes parents?
Oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait le podcast à 19h30, comme ça à 21h, je peux aller me coucher. J'ai mangé mon goûter, puis allez hop, direct au lit. Bon, reprenons.
Oui, ce film, en deux mots, c'était l'histoire d'un type qui faisait du deal de films à réalité augmentée, et avec un lecteur, il se mettait des électrodes sur la tête et ils vivaient eux-mêmes le film qui avait été enregistré précédemment.
Ah, c'est pas mal ça.
Moi, vraiment, il faut voir le film, c'est un bon film. Et je pense que ce qui plaira vraiment aux gens, c'est pas les gadgets qui sont finalement la cinéma 3D, où ça reste des gadgets. Et je suis pas sûr, même pour un film d'action, je suis pas sûr que les gens sont vraiment passionnés. Surtout que ça nécessite l'installation des salles de cinéma, c'est relativement coûteux.
C'est une installation différente pour les salles de cinéma.
Je pense, hein. Je sais pas, la projection,
Là-bas, par exemple.
En fait, il faut que le cinéma ait un projecteur numérique. Après, une fois qu'il a le projecteur numérique, il peut projeter des films classiques en numérique, mais il peut aussi projeter des films en relief. Mais effectivement, il faut un projecteur numérique et t'as que les derniers cinémas qui sont installés, généralement les grands groupes Ciné, Pathé, Gaumont et UGC qui font ça. Le reste, après, il reste en projecteur classique.
Moi, mon petit cinéma de quartier, il est déjà en numérique, hein. Parce que ça lui coûte moins cher au niveau des pellicules, tout ça.
Aussi, t'as cette nouvelle génération qui débarque, effectivement, où t'as des projecteurs moins chers et t'as de plus en plus de petites salles qui s'équipent avec ça. Mais c'est toujours mieux. En fait, moi, je suis pas. Ça apporte, oui, un réel plus en fonction du film. Mais si tu veux, c'est pour moi la question, elle est pas là. Si tu veux, la place de cinéma, on va dire que grosso modo, elle coûte 10 euros. Elle coûte 10 euros. Et quand le numérique est arrivé, les salles 3D sont arrivées, et ben cette bande de blaireaux, au lieu de réduire le prix des salles de films classiques à 7 euros et de mettre les films en 3D à 10 euros, c'est-à-dire tu réduis le prix de la place classique et tu mets au prix de 10 euros la salle de cinéma, ils ont gardé la place de cinéma classique à 10 euros et puis ils ont rajouté 2-3 euros en plus si tu veux la 3D. Donc pour moi, 10 euros déjà, c'est pas mal cher pour une place de cinéma. Si en plus, il faut à chaque fois raquer 13 euros pour voir le truc en 3D, je suis pas sûr que ça se démocratise. Ça fait super cher, je veux dire. T'imagines, t'y vas j'imagine la
personne.
Voilà, je veux dire, t'imagines la personne qui va, ne serait-ce qu'avec deux gamins. Ouais.
Si ça se démocratise à mort, le coût baissera s'il n'y a plus que des films comme ça.
Mais non, forcément, ils vont continuer à nous faire raquer.
Donc, je suis pas sûr que le coût soit vraiment l'élément.
Non, mais faut être très honnête. À un moment, si on était à leur place, on aurait fait strictement la même chose.
D'accord.
Non, mais je veux dire, t'as une petite valeur ajoutée, d'accord ? Tu dis pas, oh, je vais baisser le reste et puis je vais mettre le 3D au prix de l'ancien. Tu dis, c'est un truc en plus, je vais faire raquer, c'est normal. Ça s'appelle le commerce, à un moment.
C'est ce qu'on appelle amortir un investissement. Aussi. Mais ça, c'est au début. Si ça se démocratise, après, le coût sera pas si significatif.
Mais au final, pour moi, le vrai changement dans le cinéma, c'est plutôt au moment où THX est arrivé. Il y avait encore des salles qui étaient en mono, des belles salles qui étaient en stéréo, et quand on est arrivé au THX avec le Star Wars et tout ce qui est Indiana Jones et tout ça, là pour moi il y avait un vrai changement. Et je me rappelle pas qu'à cette époque-là il y a eu une grosse plus-value sur le prix des places.
Oui, mais parce que c'était pas visible directement.
Ça s'entend principalement, mais c'est le sens du commerce d'aujourd'hui, c'est-à-dire la moindre chose doit être payante, la moindre option à la con, le moindre truc que tu peux faire raquer les gens encore un petit peu, tu vas le faire effectivement, c'est la technique du commerce aujourd'hui, quoi.
C'est même l'inverse, c'est de trouver une option qu'on n'avait pas refourguée pour facturer.
Voilà, pour facturer, je veux dire, t'as ça partout, hein, je veux dire, le moindre petit pet, il va être payant, mais bien sûr, bientôt, tu pourras, les sièges pour enfants, ils vont être payants parce qu'ils vont mettre une puce à l'intérieur qui va faire que ton gosse, il reste assis, enfin, ils vont trouver plein de trucs comme ça.
C'est le ton que je prends tout de suite.
Oui, mais si vous calculez...
Ceux qui ont des cartes illimitées, qu'est-ce qui se passe pour eux? Ils payent plus cher?
Ils vont se faire foutre, oui, ils payent plus cher, tu repayes.
Ah, tu repayes en plus 3 euros, quoi, pour ta place.
Bah tant que c'est pas la place en entier, ça va, c'est déjà ça, quoi.
Ah oui, mais déjà, étant possesseur de cartes illimitées, ils m'ont déjà en 5 ans augmenté 5 euros par mois.
Ah ouais, quand même.
Aussi, ouais.
C'est pas mal, ça fait beaucoup. Mais quand même, pour le THX, et on remercie justement le mec avec la moto qui passe, Ami Motard.
C'est toujours le
si
même.
Vous m'entendez. Non, non, c'est pas le même. Non.
C'est mon frère, j'ai demandé de faire le tour de côté de maison.
Ah, c'est super sympa. Attends, chérie, fusil. Donc, le truc, je disais, avant pour le THX, les salles se tiraient la bourre. À ceux qui auront le son THX avant les autres dans les villes, machin, etc. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue et mon ressenti. Là, tout le monde a sorti ça en même temps. Donc, je veux pas.
Le THX aussi, il fallait que la salle soit validée par Lucas. Hein.
Aussi. C'est-à-dire en fait, je pense pas que George Lucas se déplaçait à chaque fois, mais bon.
Non, mais
pas.
En déguisement, en Darth Vador. Mais là, toujours est-il qu'il fallait avoir une validation pour pouvoir labelliser son cinéma THX. Ouais. Alors que là, en effet, je pense pas qu'il y ait vraiment besoin de
ce soit. À mon avis, il faut que ça marche à un moment, quoi, quand même. Il n'y a pas de label, mais il faut quand même que les gens voient en 3D, quoi.
Oui, non, ça, je suis d'accord, mais les boîtes maintenant, je pense que tu vois, Lucas, je pense que l'esprit c'était plus d'avoir un truc vraiment clean. Il fallait que les enceintes soient vraiment des temps de distance l'une par rapport à l'autre et tout.
Bah, il fallait que le prix qu'ils demandaient soit justifié par quelque chose. Hein.
Exactement. T'as un cahier des charges assez balèze. Là, à mon avis, le cahier des charges, du moment que t'achètes 10 000 paires de lunettes.
Ouais. Voilà. Et le petit capteur pour les synchroniser pour celles qui marchent à pile.
Exactement.
Enfin, le petit émetteur pour les synchroniser.
C'est de l'infrarouge.
Je m'en doutais un peu en fait, parce que je me disais ils vont pas mettre des lasers, ça peut être dangereux. et puis à part l'infrarouge, je vois pas trop ce que tu pouvais balancer sans que ça se voit trop.
Oh, ils auraient pu faire une norme genre Bluetooth en propriétaire ou un truc
comme
ça.
Mais non, là mais tu fais pas marcher ça sur une pile bouton très longtemps. Hein.
Une norme propriétaire si tu peux. Non mais c'est bien qu'ils aient fait ça.
Ouais. Non mais cela dit, c'était forcément optique parce que le capteur il est entre les deux yeux en fait.
En fait,
c'est pour
toi,
que le sniper qui se cache derrière l'écran puisse. Moi j'ai démonté mes lunettes.
Voilà, c'est bien ce que je me disais. Phil, il va au cinéma 3D, c'est pour démonter les lunettes, c'est pas pour regarder le film.
Ah oui, non mais c'était vraiment pour ça en plus.
C'est vrai?
Bah oui, j'y suis allé pour voir comment ça marchait.
Non mais en plus, oui, comme tu dis, ils ont sorti tous en même temps ça parce que ils sont un petit peu cul et chemise. Hein. Mais il faut aussi savoir que la télévision en 3D va arriver d'ici cette année ou complètement en 2010.
Quoi?
Ça m'étonnerait, parce que déjà qu'ils ont du mal pour la télé HD.
Bah non, mais en fait, il y en a déjà milieu de l'année. Non, qu'est-ce que je raconte? Fin de l'année, elles sortent au Japon. C'est les modèles Hyundai et Sony. Et Sony, ce sera l'année prochaine, où ce sera des télévisions qui, sur le même concept, vont pouvoir te diffuser de l'image en 3D.
Pour filmer en 3D, est-ce qu'il y a un surcoût important pour les producteurs de films?
Faut
mais
deux caméras.
Parce que,
tu les scotches ensemble.
En fait,
il y a plusieurs caméras qui filment en même temps la même scène pour créer le...
Voilà, mais en fait c'est pour ça qu'actuellement au cinéma la plupart des trucs en 3D c'est les films en images de synthèse parce
c'est
que
CGI.
Voilà, tu dis à ton logiciel ou t'as ton film en 3D, bah t'as une caméra à tel angle et t'en as une qui est décalée avec un angle de 10 degrés vers la gauche. Enfin, grosso modo c'est ça. Donc, c'est beaucoup plus technique bien sûr, mais grosso modo c'est ça. Et ils pondent deux films en même temps.
Ah oui, la version 2D et la version 3D.
Voilà.
Et, ouais.
Et c'est pour ça que actuellement au cinéma, non seulement tu payes 10€ la place et si tu veux le film en 3D, tu payes 13€, mais en plus généralement les films que t'as en 3D, c'est que des films qui sont déjà sortis ou c'est des trucs remasterisés. C'est pas de la création pure.
Bah attends les films. Attends, je ne suis pas. Oui, vas-y, c'est qui voulait réagir?
C'est Manox.
Alors, bon, Manox, vas-y.
Moi la 3D, je dirais c'est bien aussi. Mais en même temps, c'est pas non plus très bien. Voilà.
Ah bah bien, belle argumentation. J'avoue qu'on peut pas, on a du mal à rebondir dessus quand même. Hein. Mais dans l'idée, non mais par contre, sérieusement, je sais pas pourquoi tu disais Mathieu qu'il y avait que les films 3D, ils étaient, c'était seulement des trucs remasterisés. Je veux dire, là-haut et l'âge de glace 3, c'est
oui,
pas
non,
des films
mais
qui datent de
Mathieu
Zalem.
C'est soit les films en 3D qui sortent dernièrement, c'est-à-dire ouais. qu'ils font une version en 2D puis une version où il y a juste un décalage et ils mettent deux caméras dans le film au lieu d'une. Et sinon, au début, c'était des trucs repris ou remasterisés. Parce que,
avant, oui, parce que maintenant on commence à avoir des trucs qui sont nouveaux. Quoi.
Voilà, parce que grosso modo, il suffisait de réouvrir le fichier d'un film sur tes ordinateurs avec ton imagerie 3D et rajouter une caméra
serveur,
à côté. Voilà, exactement.
Ton petit ordinateur, non, c'est une ferme de serveur qu'il faut à ce niveau-là, ouais, tu vois, pour générer l'âge de glace. Le rendering, il doit être sympa.
De tête, à partir du moment où tu filmes en numérique, tu as obligatoirement plusieurs caméras. Et c'est pour ça que les télévisions 3 dimensions qui vont apparaître à la fin de l'année au Japon et puis qui vont arriver en 2010, bah c'est vrai, il faut bien une nouvelle connerie. Ils ont essayé de nous vendre le HD, ça n'a pas marché. Il faut bien une nouvelle connerie pour qu'ils arrivent à les vendre, leur écran plat, quoi.
Et dans ce cas-là, est-ce que sur un Blu-ray, ça rentre?
Parfaitement. La modification sur le Blu-ray ne demande pas beaucoup d'adaptation et il n'y a pas de souci, ça rentre sur un Blu-ray. Donc en fait, ils vont peut-être enfin réussir à nous refourguer leur écran plat et puis leur Blu-ray, c'est en rajoutant la fonction 3D.
Oui, parce que là, finalement, ça pourrait bien sauver le Blu-ray, cette affaire de 3D, quand même. Et, ouais, justement, ouais. Et justement, vu qu'on parle de sauver, on va parler de sauver l'industrie du cinéma, et vu qu'apparemment, son risque le plus grand, outre sa connerie énorme, c'est le piratage, et donc, est-ce que ça pourrait être une bonne arme contre le piratage? Je sais pas qui veut réagir.
Moi, je veux dire quelque chose. Vas-y. Bon, sauver le piratage, c'est bien, mais il faut aussi peut-être temps de sauver. Oui,
sauver le piratage. Non, que ça puisse sauver l'industrie du piratage, pardon. Je sais pas si j'ai merdé.
Non, je crois que c'est pas ça qui va les aider beaucoup.
Non, ça c'est.
Il va y avoir des mecs qui vont se fabriquer des lunettes 3D.
Oui, bien sûr, oui.
Un j'ai déjà commencé.
t'as pris deux montres LCD, tu te les mets très proches des yeux, c'est ça, et puis t'as tenté de les synchroniser avec un petit circuit.
Il y a toujours des solutions à la MacGyver, hein. C'est comme sur Canal Plus, le premier samedi du mois avec la
passoire. On avait des lunettes pour débrouiller.
Les années 80.
C'est dit, avec la passoire à pâte, heureusement qu'on a deux mains. Si c'est pour regarder le samedi soir sur Canal Plus, enfin bref.
Ça sent l'expérience.
Mais pas du tout, monsieur. Parce que moi, Canal+, ça met juste crypté sur ma télé, tu vois. Donc, la passoire à pâte, quand c'est marqué crypté sur un fond bleu...
Est-ce que vous n'avez pas connu dans les années 80, quand il y avait les vieux décodeurs, qu'il y avait une espèce de bouillie
J'étais pas né.
Ah, si, si.
Parce qu'on est des vieux.
Non, et puis on avait toujours qui essayait de te faire croire si tu secoues la tête, l'image allait redevenir classe, donc tu voyais plein de blaireaux secouer la tête comme des coups.
Ah, mais ça marche.
Ça marche qu'au bout de 10 minutes si tu secoues la tête, c'est ça?
Ouais, c'est ça, ouais. Quand tu commences à être tout zone, tu vois, tu fais ah ouais, tiens, ça y est, je vois même en 3D au bout d'un moment, tu vois.
Je comprends mieux la tête de la mère de Manos maintenant.
Bon, eh bien, messieurs, si on s'écoutait un petit peu de musique et puis on revient juste après,
on va essayer de répondre à la question après la musique, promis.
Ouais. Quelle question? La question de quoi?
Si ça va sauver l'industrie du cinéma.
Et bah, si tu veux réagir dessus, c'est maintenant, parce qu'après on passe à un autre sujet, Mathieu.
Bien sûr que non, que ça va pas les sauver. Ce qu'il faut pour les sauver, ça, le problème se situe pas là. Le problème se situe dans la distribution des films, de comment y accéder pour les utilisateurs. Ça dépend pas de la 3D ou de la 2D. Hein.
Bah surtout que c'est con, maintenant que Pirate Bay a fermé, c'est plus dur pour y accéder. Quelqu'un d'autre?
C'est dit, le cinéma va pas si mal que ça, hein. Il n'y a jamais eu autant d'entrants.
Ah ouais, voilà, justement, oui. En plus, j'en parlais dans l'avant-dernier ou dans le dernier numéro de MacJT, il y a eu 50% en plus de fréquentation cet été que l'année dernière dans les salles de cinéma, donc qui viennent pas nous faire chier que c'est la crise, quoi.
Parce qu'un film piraté, c'est pas forcément un film perdu, ça veut pas dire que personne n'aura acheté derrière.
Surtout si tu le pirates et que tu le regardes en screener, généralement, tu regardes un quart d'heure, puis tu fais bon, allez, je vais aller à mon petit cinéma de quartier, ouais. Là, parce que j'ai les yeux qui pleurent, là. Donc. Voilà. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un veut réagir une dernière fois avant qu'on passe au sujet suivant? Non? Une fois, deux fois, trois fois, adjugé vendu, comme Skype. Bon, eh bien, on se retrouve juste après.
Le débat d'Octet sera de retour sur Pod Radio après cette petite pause musicale.
Je t'emmènerai.
Rebonjour à tous, toutes et aux autres. Nous sommes donc de retour dans ce débat d'octet, premier débat d'octet de septembre. En même temps, on aurait du mal à faire un autre débat, sachant qu'on est le 2.
Et, c'est la rentrée.
Oh non, mais arrête, ça me déprime, ça, c'est horrible.
Bon, j'ai pas eu de vacances, donc je vais vous faire chier, moi, vous allez voir.
Mais j'en ai pas eu non plus, mais ça me déprime quand même, bizarrement, la rentrée, va comprendre. Donc là, dans cette deuxième partie, nous allons parler des consoles, hein. Comme quoi il y a des bonnes nouvelles quand même en cette rentrée, hein, on va pouvoir préparer Noël dès septembre. Donc déjà la grosse nouveauté qu'il y a eu de ce côté là ah pardon, j'ai oublié un truc, la chanson d'avant c'était Je t'emmènerai de la cage au folk, voilà, chanson de Jamendo encore, j'oublie toujours de dire les titres. Bon bref, revenons à notre sujet. Donc la grosse nouvelle, c'est la PS3 Slim qui a baissé. Enfin, la PS3 qui a baissé et l'introduction de la PS3 Slim. Donc, en fait, grosso modo...
Ah, c'est un peu la même chose.
Ils nous ont... Pardon ?
C'est la même... Enfin, c'est le même... C'est la PS3 Slim qui est vendue maintenant moins cher, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire une PS3 c'est Lidl, ça. Quoi. C'est-à-dire, voilà. C'est-à-dire ils ont pris les designers des packagings de Lidl aussi, d'ailleurs, hein, au passage. Et... Parce que franchement, on va être honnête, qui aime le design ? On va faire... Parce que si je dis qui n'aime pas, on va avoir un grand tollé, mais qui aime le design de la nouvelle PS3 ?
Moi, j'adore.
Moi, je kiffe. C'est génial. Tout le monde dans la chatroom. Allez, tout le monde crie. Ouais, c'est bien.
Non, mais sinon, à part pour m'embêter personnellement, qui aime vraiment le design de la PS3 ?
Moi, je préfère.
Ah ouais ?
Ouais, mais pour une raison très simple, c'est-à-dire que la PS3, elle est beaucoup plus jolie. L'ancienne PS3 maintenant, elle est beaucoup plus jolie en vrai quand tu la vois en papier glacé. C'est-à-dire, t'as les petits reflets, t'as les petits machins un peu glossy. Par contre, quand tu l'as chez toi au bout d'une semaine, c'est un vrai attrape poussière. Enfin, c'est horrible. Alors que là, vraiment, on a du plastique mat, bien comme il faut. T'as l'impression que tu peux la faire tomber, qu'elle est solide, quoi.
D'ailleurs, mat n'a que Dieu pour la nouvelle PS3. Non, c'est pas grave. Oui, non, je sais. Non, fallait mieux pas la tenter, en fait. Mais bon, je me suis lancé. Bon, toujours est-il que il y a la Xbox 360 qui va baisser aussi, sauf l'élite qui elle augmente. Donc en fait, on va dire que niveau après, si vous avez le droit de me taper si je dis une connerie, hein. Mais niveau performance et rapport qualité-prix, on peut comparer la PS3 à la Xbox Elite en fait. C'est-à-dire il y a un disque dur déjà, il y a le Wi-Fi qui est intégré dedans, voilà quoi. On va dire que c'est comparable au niveau performance. Et sauf erreur, il n'y avait pas une énorme différence de prix à l'ancien prix entre la Xbox 360 Elite et la PS3. Et là, on se retrouve dans un cas où la Xbox 360 Elite serait plus chère que la PS3 Slim.
De combien ?
Non, mais c'était une question.
J'ai rien compris.
Grosso modo, si la PS3 Elite est plus chère que la...
La PS3 Elite, pardon ? Ah, faut me la ressortir, celle-là.
Plus cher que la PS3 Slim qui vient de sortir, c'est ça ?
Mais c'est quoi la différence ?
Bah écoutez,
c'est la même console de jeu.
D'accord.
Si quelqu'un peut ouvrir un petit navigateur web et trouver les prix, parce que moi, si j'ouvre quelque chose, il y a tout qui se vautre, à mon avis, tu vois. Merci Snow Léopard, j'ai perdu la confiance en mon ordinateur. Donc.
Sur PC, ça arrive jamais, sur Vista, pas de plan.
Sur Vista, t'as jamais confiance, donc en fait, t'as pas besoin de perdre la confiance, tu l'as pas d'office, c'est simple.
Bah d'ailleurs, t'es obligé de l'acheter, office. Donc voilà. Tu l'as pas non plus. Enfin, toujours est-il que, et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis pas trop renseigné sur les prix, et on les aura tout à l'heure grâce à l'aide de Mathieu.
Mais en fait, il y a mon Firefox qui vient de se vautrer.
Oh putain! Eh bien, bien joué, les utilisateurs de Mac ont leur Mac qui plante ou ils ont pas confiance.
Ah non, c'est bon, pardon. En fait, non, c'est pardon.
Sinon, je connais Chrome,
plus ou moins. Ouais, je l'ai aussi, en fait, mais je peux pas faire de recherche Google dedans. Va comprendre. Dans mon Google Chrome, je peux pas faire de recherche Google, c'est normal. Donc, de toute façon, on va être très honnête, le prix d'achat d'une console entre une PS3, parce que là, on va faire une comparaison PS3 et Xbox 360, parce qu'on a du mal à comparer les deux avec la Wii, hein, c'est un peu compliqué.
L'Elite, oui. la Xbox 360 Elite, elle coûte 250€ et la PlayStation 3 Slim coûte 300€.
Ah ouais ? Donc, tu vois...
Voilà.
Donc, en fait, c'était pas plus cher, mais... Enfin, pas en prix d'achat. Le petit truc quand même, c'est que est-ce qu'on peut encore comparer les prix d'achat entre la Xbox et la PS3? Parce que si on calcule, on est quand même dans un dans un temps, si vous préférez, mais je trouvais pas le mot, donc j'ai pris avec ce que j'avais, où en fait le jeu en ligne, il est prépondérant. Je veux dire, qui n'a pas joué en ligne avec sa console de jeu ?
Moi, je joue uniquement en ligne avec un PC.
Oui, non, mais j'ai dit avec une console de jeu, monsieur. Mais
en
c'est
fait,
vrai
qu'à
la limite.
Je suis le seul ici à avoir une console de jeu parmi l'équipe du Captain.
C'est faux, j'ai une Xbox.
Ah oui, mais la première du nom.
Ah, bon, la première du nom, oui, au niveau jeu en ligne, ça, c'est un peu plus dur.
T'as un lecteur Blu-ray dans la PS3.
Oui, mais ça, pour l'instant, j'ai pas envie de dire que c'est un grand argument, quoi. C'est niveau jeu.
Je suis en train de faire la fiche, et je suis en train de chercher les différences entre les deux, donc.
Tu vois, il y en a pas énormément entre l'Elite et la PS3, ça, c'est à peu près comparable, en fait.
Bon, il faut savoir aussi que la Xbox, t'as une chance sur deux pour qu'elle fasse un retour SAV une fois dans sa vie.
Ça, bon, c'est. La PS3 a aussi des pannes. Mais bon, on est loin des 56% de retour de la Xbox 360. Parce que
c'est une console sur 10.
Ah, ce qui est quand même inadmissible à la base, mais bon. Reprenons quand même. Est-ce que vous pensez que donc il y a eu quand même une petite baisse de prix de la Xbox 360, hein, peut-être la Elite aussi, mais j'avais aux dernières nouvelles, j'avais entendu qu'elle avait augmenté, donc je peux m'être trompé. Donc cette baisse de prix.
Elle a augmenté en fait en Angleterre, il me semble, à cause du change. En livre, elle est plus chère que.
Ah, c'est pour ça. C'est pour ça que
peut-être qu'ils vont augmenter à la rentrée.
Ouais. Mais donc, il y a eu quand même la baisse de prix donc de l'entrée de gamme de la Xbox 360. Est-ce que est-ce que d'après vous, c'est suffisant par rapport à la baisse massive de la PS3 qui était quand même son gros point noir, le premier point noir qui était donné de la PS3, c'était son prix. Donc, est-ce que finalement, ça pourrait pas faire du mal à la 360, quoi, qui déjà a une réputation pas terrible, quoi.
Mais la 360 a beaucoup d'avance quand même, si tu regardes au niveau des ventes. Alors j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais la 360 a été largement devant la PS3 dans beaucoup de régions, dont l'Europe et les États-Unis.
C'est pas étonnant, je veux dire, ne serait-ce qu'au niveau du prix, ça limite déjà pas mal de gens pour pouvoir s'acheter une PS3. Enfin, jusqu'à la baisse de prix, c'était le cas, quoi.
Oui, puis il y a eu des très bons jeux qui sont sortis sur 360, il y a eu des
exclusivités
PS3 qui sont passées sur Xbox aussi. Donc, ça a été...
Donc ça a fait du mal.
La fantaisie, entre autres, je crois.
Ouais. En même temps, la PS3 fanfaronnerait en tête, ils n'auraient pas baissé le prix. Hein. Pas de façon aussi violente, quoi.
Il y a plein de jeux japonais sur PS3 qu'on ne trouve pas sur Xbox, non ? Moi, je me trompe.
Oui, c'est vrai. Alors, il y a des jeux beaucoup moins japonais. Parce que les japonais, quand même, la Xbox chez eux, c'est...
Elle se vend pas.
Je crois qu'elle commence à se vendre un peu, il me semble.
Depuis quelques mois, elle commence à se vendre un petit peu, mais... C'est quand même un marché très spécifique, le Japon, et puis effectivement, Microsoft a dû racheter des boîtes ou faire des partenariats qui leur ont coûté la peau du cul pour avoir des exclusivités de jeux japonais sur Xbox, et réussir un petit peu, enfin, après X années de positionnement sur ce marché, à réussir à commencer, depuis quelques mois, à vendre sa Xbox sur le marché japonais.
Ouais, et même là, c'est pas gagné, excusez-moi.
Ouais, je l'attendais celui-là. Non, mais c'est ça le problème avec ce marché du jeu vidéo, c'est que ils font des plans sur la comète et Microsoft en premier, c'est-à-dire que Microsoft ne fait vraiment pas d'argent avec sa division Xbox. Ils vendent les consoles à perte, ils sont obligés de racheter des boîtes ou de faire des partenariats exclusifs en bazardant des millions pour avoir des jeux, des exclusivités. Donc ils vendent vraiment tout le business plan, on a l'impression qu'ils vendent à perte parce que vraiment ils ont envie de s'ancrer sur ce marché. Mais le gros souci, c'est comme tu dis, c'est que effectivement d'ici 5 à 10 ans, quand on aura la fibre optique, et c'est là à ce moment-là où les gens vont commencer à se réveiller et dire tiens, on peut jouer en ligne. Et on peut jouer en ligne, pas qu'en 2D.
Il y a déjà beaucoup de gens qui jouent en ligne.
Mais voilà ce que je suis en train de. Ce que j'étais en train de parler, et là on va remercier carrément les éboueurs qui passent. Hein, je vais miner ma rue. Je vais miner ma rue, ça fera un gros boom en début d'émission, puis comme ça sera réglé. Donc, je disais de loin avec.
On t'entend bien, t'en fais pas.
Ah, ça me rassure, non, parce que moi je l'entends très fort et ça me déconcentre. Justement, là on parlait de guerre sur les prix, où finalement l'écart est de moins en moins grand entre la Xbox et la PS3. Est-ce que finalement la bataille va pas se jouer sur le jeu en ligne maintenant, justement, vu qu'il y a de plus en plus de foyers qui ont la fibre optique. C'est pas non plus énorme pour l'instant, mais par rapport à il y a ne serait-ce que 3 ans, ça n'a rien à voir. Et puis même avec une ligne dégroupée à 20 mégas, on peut déjà jouer en ligne. Par exemple, à GTA, hein, j'ai joué avec les piliers de Pod Radio hier et je me suis fait défracter par Angelus d'ailleurs, donc salutations à lui. Et, mais voilà, le jeu en ligne, c'est devenu le nerf de la guerre du jeu vidéo.
C'est simple les étapes. Hein. Avant, depuis que les jeux vidéo existent, jusqu'en l'an 2000, on jouait tout seul chez soi. Ou avec une Game Boy dans la rue, mais tout seul. De 2000 à 2010, c'est-à-dire aujourd'hui, on a eu l'apparition de la DSL, donc on a pu relier les consoles entre eux. La prochaine étape pour les 10 années à venir, c'est la fibre optique et pouvoir jouer de manière décentralisée sans avoir de console. C'est une évolution logique.
Oui, mais...
Et là, il y a quelqu'un qui martyrise son clavier.
C'est clair. Il y a Manox qui voulait dire quelque chose sur le jeu en réseau.
Je crois que c'est mieux de le dire en micro que de taper sur le clavier.
Ouais, non, mais pas de taper les phrases complètes, juste Manox, ça fera l'affaire.
Donc, ouais, le problème du Captain Hook, c'est qu'il a les doigts griffus, donc forcément.
Ah, c'est pour ça.
C'est difficile de taper avec un crochet.
Ouais. Bon, je me rappelle qu'on jouait quand même chez nous en réseau, à l'époque, avant les années 2000, avec les cartes modem. Notamment à Doom 2, voilà, c'est ça.
Oui, mais à l'époque, tu payais un abonnement plus le prix de la communication en communication locale.
Localement, ouais.
C'est ça. Ah, World Online, avec son premier forfait illimité sur modem, Doom, c'était en 98, 99
ouais.
98, je pense.
J'étais pas né.
il faut te renseigner quand même.
En même temps, World Online, tu te connectais parce que c'était les premiers abonnements limités, donc tu te connectais et après tu lâchais plus la connexion, c'est-à-dire que tu restais connecté 24/24, hein, c'était fini. Ouais.
Mais ça restait du 56K quand même.
Oui, alors en raison c'était pas terrible.
Donc voilà, sachant que à l'heure actuelle le jeu en réseau en 128K c'est pas jouable, hein, faut être honnête,
c'est dur.
C'est très dur, hein. En tout cas sur les...
Un Tetris en réseau, c'est jouable.
Oui, je pense. Ouais, ça doit être assez facilement jouable. Mais bon, donc justement, on disait que le jeu en réseau, c'était de plus en plus le nerf de la guerre. D'ailleurs, je tiens à citer un jeu qui s'appelle Mag, qui va sortir dans pas longtemps, et qui est un jeu massivement multijoueur avec 256 joueurs qui peuvent se mettre sur la tronche dans une seule carte. Donc c'est un FPS, c'est un MMO FPS. Pour changer des MMORPG, donc l'un c'est massive, ça veut dire jeu de rôle massivement multijoueur, MMORPG, et l'autre c'est un first person shooter, donc tir à la première personne massivement multijoueur.
MMORPG. Ça peut être mieux en anglais le nom. Hein.
Ouais, c'est quand même plus simple.
Ça donne plus envie.
Une question.
Oui.
J'ai une petite question. Aujourd'hui, sur les consoles, est-ce qu'il y a un jeu en ligne qui rapporte de l'argent vraiment, quoi, comme World of Warcraft par exemple sur PC, quoi?
Eh bien, c'est une très bonne question.
Pardon. Windows, Microsoft, ils doivent quand même faire de l'argent avec le live, hein, parce que le live est payant, c'est pas un truc...
Ouais, mais c'est pas le peu du live qui perdent en vendant des consoles, c'est pas le peu qui gagne sur le live qui va rembourser les millions d'investis dans les jeux et dans les ventes à perte. Hein.
C'est certain que quand ils filent 60 millions à Rockstar pour avoir l'exclusivité d'un nouvel épisode sur GTA, à mon avis, c'est dur à rembourser. Quoi. Maintenant, sur Xbox en tant que tel, pour ce qui est de la fabrication, vu que les prix au niveau de la fabrication ont bien baissé, je sais pas s'ils ils font encore des pertes dessus. Hein.
Là, la PS3, console à 170 euros, vu ce qu'il y a dedans, je peux t'assurer qu'il y a de la perte, hein, il n'y a pas besoin.
Pourquoi qu'elle tombe en panne?
Voilà, aussi, c'est une des raisons pour laquelle elle tombe en panne. Voilà. Non mais non seulement, en plus ils l'ont très mal joué, c'est-à-dire non seulement c'est une technique très simple pour cannibaliser un marché, c'est-à-dire vendre à perte et détruire un petit peu la concurrence, mais en plus ils sont fait avoir leur propre jeu, c'est-à-dire ils ont voulu inonder un marché, et en l'inondant, ils l'ont inondé de mauvais produits mal fabriqués, mal conçus, ce qui fait qu'ils doivent non seulement ils vendent à perte, mais en plus il y a les retours SAV, et quand t'as une console...
Si tu comptes le retour SAV, à mon avis, il fait tout, il va...
Voilà, et comme tu as environ entre différents modèles de Xbox, tu as entre 25 et 50% de retour SAV en fonction du modèle, je peux t'assurer que non seulement tu le sens au moment où, enfin, ils font à perte au moment où tu l'achètes, excepté à la rigueur la version Elite et encore, et en plus tu as le retour SAV qui leur coûte la peau du cul, et puis en plus ils doivent modifier les versions des Xbox pour corriger les problèmes des premiers modèles qui étaient énormes, c'est-à-dire que quand tu as une PS3 qui sort ou une PS2, Les problèmes que tu avais sur les premiers modèles, c'était des trucs très bêtes. Par exemple, c'était la charnière de la lentille qui au bout d'un an, elle commençait à baisser, ce qui fait que la lentille était plus droite par rapport au CD. Enfin, c'était des petits détails. Les vrais problèmes de la Xbox, c'est le système de refroidissement, c'est le chipset graphique qui se met à brûler au bout d'un. Enfin, t'as toute une partie de la console qui est mauvaise et qu'il faut reconstruire. Il faut savoir que par exemple. Ne serait-ce que pour développer une puce graphique comme il y a dans la Xbox, ça peut coûter jusqu'à 10 millions, voire 15 millions, juste la partie sur la carte mère où tu as la puce.
Oui, c'est sûr que c'est un paquet de pognon. Mais qui c'est la première Xbox, celle qui est sortie juste. Moi, je l'ai celle-là, c'est un peu.
Je l'ai vu.
Regardez ici dans la cave. Là. Il y a
le jeu dessus. Je parle de la 360, mais la toute première version de la 360, c'est-à-dire celle qui a été achetée dans les premiers mois, celle qui chauffait et qui avait le raid.
Ah,
Red of Death, non. Bon bref.
Messieurs.
Celle-là, si tu veux, moi j'ai eu donc elle était complètement morte et j'ai trouvé le truc, c'est-à-dire que j'ai mis vertical et maintenant elle remarche. Donc si quelqu'un a le même problème, je vais essayer.
C'est comme les anciennes PS2.
Ah oui, j'ai aussi celle-là.
Toi, t'as pris toutes les consoles qui tombaient en panne. Bon, toujours est-il, comme on est quand même dans l'esprit, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils les ont sortis assez récemment, c'est justement qu'on est dans l'esprit des ventes de Noël. Alors, je sais qu'en septembre, penser déjà à Noël, c'est dur, hein, surtout pour ceux qui ne sont pas encore rentrés. C'est
ah non,
difficile.
C'est un truc que je sors tous les jours au boulot quand les gens disent « Oh, c'est la rentrée de septembre ben, !» Je dis « Oui, c'est bientôt Noël !»
Oui,
hop, tu vois le sourire des gens qui revient.
Ah ouais, c'est vrai, c'est bientôt Noël. Ben justement, vu qu'on est dans le cas où les enfants commencent à préparer leur stratégie d'emmerdage de parents jusqu'à ce qu'ils lâchent et leur achètent la console qu'ils souhaitent. Ce qui est quand même important, c'est que c'est déjà le prix, parce que ça coûte assez cher quand même, mais le prix d'achat maintenant, il est plus comparable. Parce que si vous regardez le prix sur la Xbox 360, le prix d'achat, prenons par exemple celui à 179€, hein, le moins cher, et comparons-le à 300€ pour la PS3. Donc c'est vrai que de prime abord, ça peut paraître relativement intéressant de prendre l'autre. Je parle pour jouer à n'importe quel jeu, oublions le fait qu'il y en a peut-être une plus puissante que l'autre, hein, juste c'est une console et la personne veut jouer à une console, hein. Elle y connaît rien, la ménagère de moins de 50 ans, je sais si vous situez. Le truc c'est que maintenant, sur l'un, il faut penser quand même, et on va pas citer la Xbox, il faut penser aussi au prix de l'abonnement. Donc maintenant, est-ce qu'il faut prendre en compte, est-ce qu'on va être obligé de devoir calculer un prix de revient, surtout si, comme je sais plus trop qui disait, si on se met à avoir des jeux massivement multijoueurs type World of Warcraft, où en plus on va peut-être payer un abonnement pour y jouer en plus de l'abonnement au Xbox Live. Oui, rassurez-vous, je suis sûr, il y en a qui ont déjà pensé à ça. Donc, est-ce qu'il va falloir commencer à penser ça en prix de revient, comme un téléphone portable par exemple? Comme quand vous achetez un iPhone et vous savez que vous allez devoir vous taper 50€ par mois d'abonnement téléphonique.
Et ben quand je vois comme c'est compliqué de jouer aujourd'hui, je comprends qu'il y a des gens qui achètent la Wii maintenant.
Ouais, oui, mais c'est ça. Et aussi un truc qui est bien, c'est qu'il y a les émulateurs, notamment les émulateurs arcade. Donc t'appuies sur F3, c'est l'équivalent de 10 balles. Voilà. 55 crédits, t'as tout amorti, quoi. Donc peut-être que dans 10 ans, ça fera la même chose avec l'Xbox aujourd'hui, quoi. J'en sais rien.
Oui, mais bon.
Non, à mon avis, enfin franchement, d'une manière générale, j'ai l'impression que le marché du jeu vidéo s'est un petit peu perdu dans tous les sens entre les consoles qui faisaient de plus en plus de choses. Maintenant, on se retrouve avec, enfin ça devient compliqué de jouer.
Ah maintenant, c'est des consoles Media Center, donc.
Voilà.
Oui, de toute façon, maintenant les consoles, le but c'est qu'elles soient au milieu du salon. C'est-à-dire que Microsoft, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir s'imposer et que ce soit seulement une console de jeu, mais que ce qu'ils ont aussi pour les photos, pour tout ce qui est.
Bah, il y aura le catalogue de musique ou de films en ligne. C'est vrai que s'ils arrivent à faire rentrer une Xbox 360 pour de la VOD, l'avantage c'est qu'ils auront d'autant plus de clients. Par exemple, l'inverse de ce que Apple est arrivé à faire avec l'Apple TV, hein, entre parenthèses.
c'est des gens qui achetaient des films sur le Xbox Live, enfin sur la Xbox 360. Parce qu'il y a un catalogue de VOD.
Oui, c'est possible. Écoute, moi je sais pas parce que j'ai pas la Xbox 360.
Franchement, c'est la chose à laquelle je rêve toutes les nuits, c'est pouvoir lancer Windows Media Player sur ma télé. C'est vraiment un truc que.
Je sens un petit ton moqueur quand même, hein, malgré le sérieux et l'aplomb dont tu as fait preuve. Je sens quand même qu'il y a un petit foutage de gueule derrière quand même. Hein.
C'est pour ça que je me demande s'il y a vraiment des gens qui achètent ça. Quoi. C'est vrai.
Mais écoute, c'est très possible, franchement. Bon, en France, j'ai un peu du mal à imaginer, vu que souvent ton fournisseur d'accès à Internet te propose
oui,
ça. Hein,
propose donc. Déjà ça, oui. Donc, voilà,
quand t'as pas canal satellite, ou de toute façon, vu le nombre de chaînes que t'as, si t'ajoutes canal satellite, machin, etc., enfin, on va dire, vu le bouquet de chaînes que t'as, t'as pas besoin de VOD, parce que de toute façon, il y a des grandes probabilités que t'as un film qui t'intéresse, quoi. Même s'il est rediffusé depuis 4-5 fois, il y a peut-être des probabilités que ça t'intéresse. Et puis
à Noël, il y a toujours de très bonnes rediffusions.
Oui, oui, oui. Astérix et Obélix, ce genre de choses.
Une ordure.
Voilà. Et justement, vu qu'on parlait de consoles qui font tout, même le café, et surtout de consoles qui baissent de prix. Pardon ?
Le chauffage, elles font bien le chauffage.
La PS3 est relativement tiède, chaude quand même. Hein. Elle est pas très très fraîche quand même.
Mais
moi je peux te dire, je l'ai juste à côté, je pose ma main dessus. Ouais, c'est tiède chaud. C'est-à-dire, c'est pas brûlant, tu peux laisser ta main, mais il fait chaud. Non, elle est allumée.
Le souci de la Xbox, c'est aussi le bruit, c'est un vrai. C'est un avion, ce truc, c'est horrible.
Effectivement, c'est un avion en décollage, hein, quand t'allumes ta Xbox, c'est.
Voilà, ça t'enveloppe dans une certaine atmosphère, c'est assez étrange.
C'est une partie du THX, remarque.
Ouais, c'est
ça. C'est comme question de basse.
Bon, messieurs, revenons sur ce que... J'ai du mal à garder le fil avec vous, hein, c'est mes bons jeux.
On va y arriver.
Donc, je disais, vu qu'on parlait de consoles qui font un peu de tout, et de baisse de prix, parlons justement du contraire. Parlons de Nintendo. Est-ce que...
Donc là, on parle plus console de jeu, c'est ça ?
Non, attends, la Wii est une très bonne console de jeu, pour ma grand-mère. en fait, le truc, c'est que... Il y a un catalogue avec peu de jeux, entre guillemets, adultes. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, il y a des jeux adultes, hein. Il y a du Resident Evil, hein. il y a l'autre là en dessin animé où il y a du sang partout, dont je ne me rappelle plus le titre. Mais il y en a peu.
Ils existent. Vachement bien.
Oui, non, mais je parle de jeux adultes. Je parle de jeux qui pourraient se comparer à GTA, je sais pas si vous voyez. Bon bref, je parle pas de jeux de cul, hein, y en a pas, malheureusement sur aucune des plateformes, et pourtant je suis sûr que ça marcherait. Donc Nintendo en ayant refusé de baisser le prix, est-ce qu'ils risquent pas de se prendre quand même la tôle de leur vie à Noël ?
Faut voir. Le problème, c'est qu'ils sont déjà sur un marché qui est un peu saturé pour eux, parce que quand même ils ont vendu des tonnes et des tonnes de consoles.
Ah là, c'est ça.
C'est clair.
En France, mais... Chez tout le monde a sa Wii, quoi. Qui c'est qui a pas de Wii ici ?
Moi.
Oui, bon, et toi, t'es un peu spécial.
Moi, j'ai pas de Wii, moi. Mais ma sœur en a une. Et je connais au moins 3 personnes, là où je bosse, qui en ont une. D'ailleurs, ils se font des soirées Wii. C'est sympa.
C'est tout le problème de la Wii, quoi. C'est la console sociale, c'est un peu atroce.
Oui, parce que quand t'es tout seul, tu joues pas à la Wii. Peut-être à Wii Fit.
Donc tu la sors du placard.
Pas encore. Si, tu joues à Zelda, ouais, tu joues à Mario, si tu veux, mais... voilà, quoi.
Oui, c'est vrai. Mais c'est surtout, quand même, une console vachement casual, quoi. Donc, c'est...
Ouais,
c'est
mais
pas la console
et juste,
gamer.
Et au niveau vente, c'est la merde, hein, parce que tu vends une console pour 4 personnes.
Oui, c'est vrai.
Aussi. Non, mais c'est vrai, si ton ami a la Wii, tu vas reporter l'achat. Tu dis, ouais, je la prendrai quand elle baissera.
Bah, pas certain, parce que ton ami a une Wii, tu l'as pas, tu passes pour un tocard.
Ouais.
Bah non,
c'est
non, parce
ça.
Que tu. Non, non,
c'est un peu
pas du
le principe
tout.
Des ventes de la Wii, savoir que tu vas chez quelqu'un qui a la Wii, tu joues pendant 2 heures, c'est très, très amusant, tu l'achètes pour chez toi.
Tu joues une demi-heure parce que t'as joué 2 heures déjà avant et tu fais ah ouais, non,
voilà,
mais en fait.
Exactement. Et le temps que tu l'achètes, ton ami l'a déjà mis au placard généralement, donc après il vient jouer chez toi. Toi t'as vite des potes qui vont l'acheter à leur tour, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de Wii qui sont dans des placards, mon avis, à leur
en fait, c'est la vente pyramidale, c'est le même principe.
Voilà,
et c'est comme ça que ça marche. Ah putain, si j'avais su, j'aurais lancé un truc pareil. Un truc que. Mais non, mais c'est... par contre,
je suis pas sûr qu'ils arrivent à se prendre la tollée parce que quand tu vois comment, enfin, à chaque fois, on se dit ouais, Nintendo, la prochaine console, ils vont se prendre une tollée. Ça fait depuis la.
Ah non, mais là, non, ils se prennent une tollée une fois sur deux. Hein. Par exemple, prenons la GameCube. La GameCube, ils se sont pris la tollée du siècle. Et ils
ouais,
ont... Enfin, la Nintendo, c'était un grand succès. La GameCube, ils se sont pris la tollée. La Wii, c'est un succès. Vu que la Wii, c'est encore la Wii, tu vois. C'est...
J'ai l'impression qu'ils ont besoin de ça pour avancer. Ils sont pas capables d'innover des fois.
Ouais, c'est un peu le principe partout, quoi. C'est,
surtout
c'est...
là, avec justement la Xbox et la PlayStation 3 qui, au début, au moment où elles ont été lancées, ils étaient complètement partis dans on vend la console la plus puissante, ils sont complètement ramassés face à la Wii qui était là pour dire on vend une console pour que vous jouez. Là, ils risquent de revenir les deux autres consoles avec des trucs un peu plus casual, avec le projet Natal, etc., et de nouveau en vendre. Et puis effectivement, Nintendo risque de prendre. Risque de se prendre une belle branlée parce que justement ils ont rien foutu, ils nous ont rien sorti de nouveau au dernier salon. Donc à mon avis, ouais, ils risquent de se prendre. Maintenant, fais un peu réfléchir là-dessus. Je pense qu'ils vont se prendre une branlée.
Et c'est vrai aussi que pour jouer au tennis, le projet Nadal, c'est pas mal. En plus, tu envoies pas ta manette dans l'écran LCD suite, hein. Vu que t'as pas de.
Ouais. T'as pas de. Plein de gens faire de la tectonique devant leur télé maintenant, ça va être cool.
Ça va être sympa. Non mais voilà, c'est aussi ça le truc, c'est que certes, la Wii a lancé un nouveau concept, mais comme tout nouveau concept, il était imparfait. Les autres ont eu le temps de voir comment ça se passait,
bah, les
de prendre
se
la
sont
température.
Plantés, et puis on pris la température.
Planté ou planqué d'ailleurs, c'est au choix un peu. Hein. Voilà. Mais ouais. je dirais un peu les deux. Ah tiens, quelqu'un m'appelle. C'est
téléphone.
Sympa.
Téléphone.
Allô, Choupette, tu peux envoyer mes mercenaires. Ah bah si c'est ma mère, ça m'inquiète. Bref, le truc c'est que je sais plus où j'en étais du coup parce que ça déconcentre. J'en étais où les gars ? Non, il y avait personne.
Je sais pas, moi je t'écoute pas.
Ah ouais, je me disais.
Aussi.
Ah oui, non, ça c'était tout à l'heure. Non, je disais que voilà, justement, les autres s'étaient mis entre guillemets en retrait en faisant des consoles puissantes, un truc qui n'a rien à voir avec la Wii. Et là, du coup, ils vont pouvoir se lancer alors que quelqu'un a déjà pris le risque avant. Donc ça a des chances de mieux marcher, on va dire.
Surtout quand tu vois les résultats du projet Natal, quoi.
C'est clair. Franchement, ouais. ou même ceux de Sony qui sont pas aussi impressionnants que le projet Natal, mais qui déjà sont mieux que la Wii vu que t'as pas besoin de brancher 45 000 trucs pour avoir une manette complète. D'ailleurs, est-ce que vous avez calculé le prix de revient d'une manette supplémentaire à l'heure actuelle sur la
C'est
Wii
cher.
Avec le Nunchuk, le truc en plus, ouais. etc.
Ouais.
Au moins 50-100 euros.
Ça fait 80 euros. C'est bien simple, okay. Vous prenez 39 euros, donc on va arrondir à 40 parce que sinon on va pas s'en sortir. De toute façon, c'est 39,90. Vous prenez 40 euros la Wiimote en elle-même, hein, je veux dire le stick. Hein. Vous prenez le Wii Motion Plus, 20 euros. Vous mettez le Nunchuk, 20 euros. Donc 40 plus 20 plus 20, ça fait donc 80. Je ne parle même pas de si vous décidez de prendre la manette classique ou si vous décidez d'acheter des petits accessoires en plastoc pour faire mieux le golf.
Ou simplement si tu veux des piles rechargeables.
Ou simplement si tu veux des batteries rechargeables. Ça aussi, j'avoue que faire fonctionner une manette sur pile. Mais à la limite, valait mieux lui laisser un fil Microsoft-like, quoi, tu vois. Mais bon. Franchement, le truc, c'est que finalement, là, encore une fois. La Wii, même la Wii a un coût de revient, si on calcule. C'est-à-dire qu'en fait, la Wii, quand vous l'achetez, c'est clair, elle fait 250 euros et même par rapport. Pardon ? Oui ?
Il parle à son gosse, je crois.
Ah d'accord. La Wii,
il croyait qu'il avait coupé les micros.
D'accord. La Wii, elle fait 250 euros par rapport à la PS3 à l'époque, c'était pas cher, mais pareil, tu dois si tu veux inviter 4 potes parce que sinon tu t'emmerdes. Et ben tu t'es obligé d'avoir 4 manettes, donc sans le Wii Motion Plus déjà, t'en as pour 3 fois 60 à acheter en plus. Donc 3 fois 6, 18, t'en as déjà pour 180 euros de manettes. Quand même.
Il faut mieux les voler.
Vaut mieux les piquer dans le magasin, effectivement, mais bon, le jour où on pourra télécharger des manettes et avoir une petite imprimante 3D qui te les fait, j'avoue que ce jour-là, je piraterai un Mac Pro.
Oh, sinon, tu vas acheter tes potes, comme de toute façon, ils n'utilisent plus double placard.
Sinon, ouais, tu l'achètes d'occasion dans l'absolu. Mais le pire, c'est que le marché de l'occasion, et c'est pourtant c'est là qu'on pourrait se dire, ça se revend très vite derrière, en fait, mais en fait, le marché de l'occasion, les prix sont quand même élevés, bizarrement. Tu trouves pas de Wii à 150 euros, quoi. Et pourtant, on a tous l'impression que on joue 3 heures et ça finit au placard. Donc soit les gens sont suffisamment cons pour les laisser dans le placard et les revendre pas en ligne, mais bon, ça s'est démocratisé. Soit sinon, les gens fixent les prix. Puis comme il y a énormément de gogo qui sont intéressés aussi, peut-être pas gogo, mais de personnes curieuses qui ont envie de tester la Wii.
personnes curieuses.
Non, dans les deux sens du terme. Et donc le. Oh là là.
Faut couper les micros.
Ouais, ça serait bien là, parce que l'escalier en fer, il fait du bruit. Donc dans ce cas-là, il y a peut-être énormément de personnes qui les prennent d'occasion aussi, je sais pas trop. Bref, toujours est-il, on verra bien à Noël, après Noël, hein, quand on saura comment les ventes se sont faites. Mais
avis, il y a quand même si le marché est saturé, je pense que la marque ou la société qui sort une console similaire à un système de l'iPhone, c'est-à-dire avec un App Store entièrement en ligne, totalement dématérialisé, je peux t'assurer, avec des jeux simples et une console pas chère, je peux t'assurer qu'elle t'explose le marché.
Tu veux dire la PSP Go, mais en bien vue, quoi.
Il y a un nouveau principe de jeux vidéo qui va sortir d'ici, je sais pas, peut-être un an ou deux, qui est le principe d'avoir des fermes de serveurs qui calculent. Et en fait, toi, t'as juste la manette, je sais pas.
Ouais, voilà, c'est de ce moment dont on parlait. Il y en a plein qui sortent en ce moment.
Ouais, enfin, c'est pas encore.
Moi, ce que j'attends, c'est qu'il y ait un nouveau producteur de consoles, quoi. Bon, il y a eu Atari à l'époque, il y a eu Sega, il y a Sony, il y a Nintendo toujours, et il y a Microsoft. Mais on a envie de quelque chose de vraiment nouveau, quoi. Quelqu'un qui arrive sur le marché avec un produit neuf.
La Phantom, bien que nous ont fait faillite,
c'est ça que moi j'attends pour Noël, quoi. J'ai envie de. Si je veux m'acheter une console, je pourrais m'acheter encore des bidules, PS3 12, Lite, je sais pas quoi. Bon,
ouais.
C'est vrai que le cloud gaming, de toute façon, je pense qu'on va y venir, quoi qu'il arrive. Mais le problème, c'est qu'on risque de se taper les mêmes trois constructeurs.
Et là, ça sera fini l'occasion, hein, tu pourras t'asseoir dessus.
Ça, c'est clair.
Ah oui, non,
là,
mais ça,
toutes les chaînes de magasins Games, Micromania et compagnie en France ou les autres, c'est fini.
Je pense qu'ils peuvent commencer à creuser la tombe, quoi. Ça sera fini.
Depuis tout à l'heure, je suis en train de dire, grosso modo, que l'industrie du jeu vidéo actuellement se porte relativement mal, quoi. J'ai l'impression que c'est ça que tu es en train de dire.
Ah non, au contraire, elle se porte très bien pour les fabricants. Pour les fabricants, elle se porte très bien. Ils ont une croissance et tout qui est arrivée à compenser c'est-à-dire que si tu prends le graphe de l'entertainment en général, c'est en progression, alors que la musique est en train de se péter la gueule. Pourquoi ? Parce que c'est les jeux vidéo qui contrebalancent la baisse de la musique. Donc non, le marché du jeu vidéo, il se porte super bien. C'est juste qu'on a l'impression que déjà il y en a un qui va se péter la gueule et qu'il y en a deux
qui sont au bord du précipice. Ouais.
C'est-à-dire que pour l'instant ça se passe bien. Mais notre instinct nous dit qu'il y a un truc qui va finir par partir en couille, quoi. Mais voilà. Mais ils vont nous sortir encore un nouveau truc et on va être impressionnés, on va vouloir l'acheter encore. Enfin bref. et c'est pour ça que le cloud computing, ça, je sais même pas si c'est une bonne idée pour les constructeurs. Parce que finalement, si t'as toujours les derniers jeux et la dernière console, tu auras du mal à. Ou alors ça se jouera sur le service et plus sur le matériel.
C'est pas lié aux constructeurs, hein. Je crois pas que Microsoft ou Sony ou Nintendo aient des projets de ce type-là, a priori.
Pour l'instant, ils en ont pas parlé, en tout cas, mais c'est qu'une question de temps que Microsoft rachète. ils ont les moyens financiers de le faire. Ouais. Bref, écoutez, messieurs, on va s'écouter un petit peu de musique, d'accord ? Et puis ensuite, on va parler d'un sujet qui va vous passionner, c'est vous. Hein, donc, ça fait du bien.
Ça fait longtemps que je l'attends, en plus.
Vous allez pouvoir vous auto-congratuler et tout, ça va être sympa. Bon, allez, une petite pause musicale, hein, et puis on revient.
Le débat d'octet sera de retour sur Pod Radio après cette petite pause musicale.
Je suis un petit gars solitaire et même plutôt célibataire. Je cherche la femme de ma vie, mais je veux surtout qu'elle soit jolie. C'est un petit gars solitaire, toujours célibataire. Il cherche la femme de sa vie depuis qu'il est tout petit. J'ai tout essayé, tout tenté, du clin d'œil à sourire charmé. Et même la main qui se trompe de chemin, mais ça c'est pas conseillé. Il a tout essayé, du vieux clin d'œil au sourire coincé. Et même la main qui se trompe de chemin, mais ça c'est pas conseillé. Ça lui a fait de l'effet, mais pas celui que je voulais. Sa main m'est revenue, je ne lui ai pas dit bienvenue. Ça lui a fait de l'effet, mais pas celui qu'il espérait. Et la main a frappé sur la joue qui rougissait. Je me suis fait à bouffer, j'ai marché toute la journée et j'ai trop mal aux pieds. Super désespéré, il s'est posé dans le canapé. Il a toujours rien pêché et il a trop mal aux pieds. Sa langue, l'idée m'est venue de mettre une l'idée lui est venue de mettre une annonce dans la rue, dans la petite description, oui mais je suis un beau garçon. Deux ou trois jours plus tard, une nana m'appelle le soir, on fixait un rendez-vous, l'heure et l'endroit et puis c'est tout. Deux ou trois jours plus tard, il fixait un rendez-vous, comme on va chez le médecin, on prévoit tout mais on sait rien. J'arrive là-bas en retard, je voulais pas y aller. J'étais un peu stressé car je savais pas ce qui m'attendait. Il arrive là-bas en retard, il voulait pas y aller. Il avait surtout peur de pas être à la hauteur. C'est alors que je vois arriver une bonne femme qui se jette à mes pieds. Elle me trouve à son goût, mais elle est pas au mien du tout. C'est alors qu'il voit arriver une petite bonne femme qui vient lui parler. Elle le trouve plutôt beau, mais elle a 15 kilos en trop. Mes claques, je claque la porte de ma voiture, je clique sur le verrou automatique et je laisse la vie seule en panique. C'est un petit gars solitaire, toujours célibataire. Il cherche la femme de sa vie, mais sera tout seul ce soir dans son lit.
Rebonjour à toutes, tous et aux autres. La chanson, c'était Le Petit Gars Solitaire, et c'est toujours La Cage au Folk que vous pouvez trouver sur Jamendo. J'avoue que je suis devenu assez fan de leur album. Bon, alors, je rappelle pour ceux qui nous rejoindraient, ou ceux qui auraient zappé les chapitres parce qu'ils voulaient juste entendre parler des podcasts, que j'ai avec moi, donc Mathieu Blanco et toute l'équipe de l'apéro du Capitaine. Ouais. Eh bien... vous avez vu, il y a vraiment toute l'équipe. On va commencer par les vieux, hein. Comme ça sera par les habitués. Alors Mathieu.
Ah moi je pensais les vieux en âge, pardon.
Non les non les vieux. Bon alors, tu as arrêté MacJT. Pourquoi?
C'est fini. Je
oui,
pars.
Pourquoi?
Au revoir.
Non mais ça fait pas ça Skype, c'est dommage, ça donnerait des petits effets sympas. Donc pourquoi t'as arrêté MacJT? C'était bien pourtant.
Oui, enfin je crois, je pense, oui, j'espère.
Si c'était bien.
Non, donc il y a une fusion avec le site welovemac.net qui d'ailleurs réalise pour le mois d'août l'une de sa meilleure audience.
Ça m'étonne. Il m'étonne non, le mec. C'est le mec qui fait déjà... Ah tiens, c'est bizarre. Depuis que je suis chez lui, ils ont fait... depuis chez eux, ils ont fait la meilleure ambiance. Tu parles, attends, t'as regardé sur l'iTunes Store? T'étais 6e, tout podcast confondu, en milieu de semaine dernière.
6e?
Bah oui.
Punaise.
Mais ça, tout podcast confondu, vidéo, audio, t'es allé sur la page des podcasts, t'avais le top 10, t'étais 6e.
Putain.
Donc moi, j'ai fait
rien rapporté en pépette.
C'est ça qui est beau.
Non, c'est ça qui est beau.
Non mais sérieusement, c'est impressionnant quoi. Donc après le fait que tu te dises tiens c'est bizarre, ils ont fait de l'audience depuis que je suis chez eux, moi ça me fait doucement rigoler hein, mais bon.
D'accord. Non, moi j'étais mais c'est vrai qu'au niveau des chiffres, bah les chiffres il les a donnés publiquement. Il y a eu sur un mois d'août qui est généralement un mois super calme, il y a eu un plus d'un million de pages vues, et puis c'est vrai qu'au niveau du podcast on a triplé, puis on est passé à 14 000, plus de 14 000 téléchargements. Donc
c'est, on va voir qu'en même temps, vaut mieux pas qu'il y ait 14 000 téléchargements chez moi, parce que sinon, il y a la Roger qui pète un câble. Hein, donc
Voilà, et puis mais je peux t'assurer, je suis content d'avoir changé d'hébergement il y a une semaine. Sinon, là, j'aurais dû claquer au moins 300 euros en moins de
passant. Là, t'aurais claqué le serveur aussi, surtout. Mais...
Voilà. Donc, hein?
T'es sur un serveur dédié?
Pas du tout, je suis en mutualisé, moi. Moi, je le fais à l'ancienne. Et donc voilà, en fait il y a beaucoup de gens qui ont apprécié la fusion, pour ceux qui connaissaient We Love Mac, parce que c'est vrai que Christophe, qui administre ce site depuis un an et qui s'y connaît pas mal en site news, qui a fait pas mal de projets avant et qui est bien dans le domaine, a une manière d'écrire et de présenter les choses très travaillée, très bien présentée, tout ça. Donc j'essaye d'être à l'audio ce qu'il est à l'écrit.
Bah, je te rassure, hein, t'étais à peu près déjà au même niveau avant, hein, donc te force pas trop, ça va. Par contre, et là, vous allez vous apercevoir que ils ont pas eu les notes, ils avaient les questions quand même vaguement, même s'ils ont absolument pas suivi et que j'ai galéré pour les ramener dans le bon chemin pendant toute l'émission. Mathieu, par contre, et là je vais me permettre de te critiquer publiquement sans t'avoir prévenu. Disons qu'en fait, j'ai bien écouté le premier épisode de We Love Mac JT. Alors, outre le fait que maintenant je suis bloqué pour aller sur We Love Mac JT, alors qu'avant j'avais accès au site Mac JT, mais bon, ça c'est la rançon du succès. Vive le filtrage en entreprise. Donc, je suis obligé d'attendre chez moi, donc du coup j'oublie, donc j'ai écouté que le premier épisode. Le fait qu'il y ait deux invités. Ça l'a rendu un peu plus long et un peu plus diffus, c'est normal, on va dire, moins concentré.
On a raté une semaine, ce qui fait que j'ai fait deux épisodes en un, donc deux fois 20 minutes.
Oui, non, mais là, après la longueur, à la limite, c'était pas trop le problème. Mais avant, c'était des news ultra condensées, d'accord ? Avec tout ce qu'il faut dedans, mais en condensé. Puis là, comme il y avait deux personnes, l'une à la suite de l'autre, d'accord ? Pas à la suite de l'autre, mais dans le même podcast. Du coup, ça fait deux temps creux au niveau du rythme, en fait. Et c'était long. Hein. Je vais être honnête, j'ai zappé les interviews.
C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a inventé une super technologie dans les podcasts qui s'appelle le chapitrage. J'ai rappelé justement dans le deuxième épisode, parce que pas mal de gens m'ont dit. Alors, ce qui est très marrant, c'est que quand tu fais des épisodes de 10 minutes, les gens te disent c'est pas assez long. Ouais. Quand tu fais des épisodes de 40 minutes, les gens te disent c'est trop long. Et c'est pour ça qu'on a inventé le chapitrage et que iTunes reprend là où tu t'es arrêté, ou ton iPhone ou ton iPod. Quand tu t'arrêtes, que tu vas bosser, que tu le reprends le soir, l'iPhone reprend là où tu t'es arrêté.
Objection, votre honneur. Moi, j'écoutais sur la radio à ce moment-là, donc le chapitrage.
Sur la radio ?
Oui, sur Pod Radio. Tu sais que t'es diffusé chez nous, hein, je te rappelle.
Ah
mais,
oui, ok.
Donc, au passage, le mec a complètement oublié qu'il y avait une radio.
Pod Radio, donc là, ça te concerne directement.
Bah oui, je sais, mais comment tu veux faire un chapitrage sur une radio, toi ? Non, mais ça, outre le fait que ça nous décale une partie de la grille des programmes, comme on n'en a pas vraiment. D'ailleurs, j'annonce, j'en profite, que pour janvier 2010, l'objectif est d'avoir une vraie grille des programmes, entre autres pour intégrer l'apéro du capitaine. À une heure où les oreilles chastes ne pourront pas l'entendre, c'est-à-dire 23h, c'est-à-dire pendant qu'on code. Non, ce sera un petit coup de 23h, je pense. C'est-à-dire que les trois quarts sont encore levés. Quoi. Mais donc, sinon, c'est quoi les termes du... Pardon ?
Chez les geeks, 99% sont encore levés.
Il y en a, ils viennent de se réveiller aussi, oui, c'est surtout ça. Pof, petite dédicace à toi, hein, quand tu codes le serveur et que tu te réveilles à 18h, 19h, et tout ça pour te recoucher à midi, 1h, et le lendemain. Et donc, le truc, c'est aussi, je serais assez curieux de savoir c'est quoi qu'il y a dans le contrat entre Will of Mac JT, entre Will of Mac et Mac JT. C'est quoi les petites lignes ?
Il n'y a pas eu de contrat, en fait.
Oui, non, mais je me doute qu'il n'y a pas eu de contrat signé en vrai. Mais c'est quoi
tu l'as profond dans le cul, hein, je te prie.
Non, mais c'était quoi l'accord ? Parce que c'est quand même intéressant de savoir, vu que c'est quand même la base de Pod Radio, de parler de la communauté aussi. Donc justement, quand il y a un petit partenariat, ça se joue comment ?
En fait, c'est moi qui voulais en fait arrêter d'avoir le site internet de macjt.fr à gérer. Puis de plus en plus de gens me demandaient « Ah, ce serait bien de mettre des news, ce serait bien de mettre un forum. » Et j'ai pas le nom d'ubiquité encore.
Sinon, t'aurais pu venir chez nous, hein, mais bon, ça après, entre parenthèses.
Mais justement, moi, c'était un site que je connaissais depuis fort longtemps, parce qu'en fait, avant de faire We Love Mac, il avait fait Apple News. Et puis avant ça, il était dans le podcast. C'était l'un des premiers à faire Audiopod, pour ceux qui se rappellent encore ou qui connaissent. Et c'était vraiment une personne que vraiment depuis le début j'admire par sa manière d'écrire et la manière dont à lui tout seul il arrive à créer un site qui fait une audience de 500 000, 700 000 pages vues par mois. Et c'est surtout la manière de travailler qui m'a plu. Et puis on a d'autres, en fait, je lui ai proposé cette association parce que je sais que si ça marchait, la manière dont il travaillait, il y a d'autres trucs par derrière qui vont arriver. Donc vous en faites pas pour la suite.
De toute façon, ce qui est bon pour les partenaires est bon pour nous aussi, hein, parce que finalement, on va peut-être pouvoir... mais là, je fais un peu de spoiler, rien n'a été décidé, donc c'est à mettre avec un conditionnel énorme. Pour le 9 septembre, il y aurait des chances qu'on puisse être main dans la main avec Mac+, si j'ai bien compris ce que tu disais dans la journée.
Ouais.
Du coup, voilà. Ah ouais. Donc en fait, Mathieu va avoir de l'influence, ça va être pratique pour nous, ça va nous aider parce que bon. En fait, vous savez pas, mais le partenaire locomotive, vous savez, celui qui tracte Pod Radio et le reste, et ben en fait, c'est Mathieu. Voilà. Comme dans toute association, on a toujours un qui tracte. Dans l'Europe, tout le monde disait que l'Allemagne était la locomotive de l'Europe. Et bien, bah voilà, la locomotive de Pod Radio, c'est. Pardon ?
C'est pas le Portugal qui traîne l'Europe ?
C'était au début de l'Europe, donc je pense pas qu'il y avait le Portugal au début de l'Europe.
Ouais, Mathieu, trêve de plaisanterie, assez de langue de bois, ils t'ont filé combien de
Zéro, si ça rapporte.
Eh ben, tu t'es fait bien niquer.
Ça rapporte rien, c'est de la passion. Mais par contre, là, on est en train de monter des projets où effectivement, on a cette notion de pépette.
Ça va rapporter. Bah ouais, ça sera.
Pépette.
Il faut.
Mais par contre, c'est des projets tout à fait autres qui n'ont rien à voir avec enfin si, qui a à voir forcément, mais vous comprendrez, enfin vous verrez d'ici les quelques mois à venir les choses qu'on va sortir qui seront pas forcément en rapport avec les podcasts ou avec le site. Vous allez comprendre l'influence que ça a eu dessus, et donc il y a des projets en cours. Et des projets.
Nous oublie pas, hein, au passage. Hein, et nous, comme ça, ça pourra aider les quelques partenaires. D'ailleurs, le but aussi pour janvier, c'est qu'on ait assez de partenaires pour pouvoir faire une vraie grille des programmes. Donc, je renouvelle l'appel désespéré que je fais à chaque débat d'octet.
D'ailleurs, pour ceux
si vous faites du podcast ou si vous voulez en faire, passez par chez nous, le taulier est cool. Voilà.
Et puis d'ailleurs, justement, pour cette grille des programmes, donc là on a We Love MacJT, donc les 20 minutes d'actu avec. D'ailleurs, comme tu dis, les interviews, j'essaie de les caler à la fin maintenant.
Oui,
ça peut faire une deuxième partie en fait de l'émission.
Ah. Disons que c'est pas inintéressant, c'est juste que le matin, c'est moi ça me rendort. Et donc le MacJT me réveillait bien. Et puis là, pouf, ça fait un petit temps mort. Alors dans le bus, quand tu fais rien, c'est horrible. Hein, ça, c'est...
Ouais. Non, c'est pour ça que je les cale plutôt à la fin. On a le podcast financier qui va bientôt arriver. Et il y a un autre podcast en préparation, cette fois-ci de la section culture, concernant de la culture.
La culture...
Donc des betteraves, des pommes de terre...
Non, la culture littéraire.
Ah, d'accord. Donc en fait, tu plantes des livres dans la terre et puis ça...
et ça fait des arbres, tu vois. Voilà.
Avec plein de feuilles, c'est normal. Alors...
L'arbre à couilles apparaît.
On va l'appeler Lint, Lord ton père, hein, la passion de la finesse.
J'aimerais bien parler un peu du capitaine là. Qu'est-ce qu'il fout là? Il sort les
justement.
Oui.
Eh bien, donc, vas-y. Tu te présentes ou je te présente?
Vas-y, présente-moi, j'adore être présenté.
Bon, et ben si tu veux, alors, donc il y a quand même une bande de 1, 2, 3, 4 mecs complètement timbrés, hein, qui, au moment où tous les podcasts audio sont en train de se planter la gueule au profit des podcasts vidéo, ou au profit de rien faire, ça marche aussi, ou du micro-blogging, hein, de cette saloperie de Twitter, et ça c'est placé. Et il y a des mecs qui ont donc décidé de faire un truc, j'ai envie de dire old school, c'est-à-dire comme c'était avant, c'est-à-dire des personnes autour d'une table qui discutent. Et ben en fait, on a l'impression que c'est de manière non préparée. Sauf que
c'est pas une impression.
Sauf que bizarrement, vous êtes quand même largement meilleur que nous quand c'est pas préparé, hein, entre parenthèses. Hein. Donc justement, c'est l'apéro du capitaine et comme son nom l'indique, je pense que ces mecs ne sont pas sobres au moment de l'enregistrement. Hein.
Alors il faut pas être légère. On a quand même une préparation. La préparation, ça consiste à passer à l'épicerie acheter de la bière. Ouais. Ça nous prend quand même facilement 10 minutes.
Préparation physique aussi. Moi, je fais quelques pompes avant, quelques
voilà. Exactement. Donc ensuite on descend de notre câble et là on commence à enregistrer.
Ah c'est pour un petit bout comme
voilà. Donc le truc c'est que absolument sans montage, hein, on passe directement en MP3 et on balance ça. Voilà. Donc il faut savoir qu'il n'y a aucun montage de notre truc.
Il n'y a aucun montage dans le débat d'Octet non plus, monsieur. Hein. Sinon ça serait. Ça serait mieux.
Sûr que tu vas rien couper dans ce qu'on a enregistré aujourd'hui.
Ah sûr. D'abord parce que j'ai la flemme. Pour commencer.
c'est un peu comme nous là.
Voilà, non mais c'est aussi parce que si tu commences à couper, tu mets le doigt dans un engrenage terrible. Et le problème c'est qu'après tu passes un temps fou, et au bout d'un moment tu te déprimes, non c'est pas ça. Tu te démotives. Voilà, c'est ça.
Surtout quand on parle de toi avec le capitaine quand même.
Mais j'y ai pas pensé sur le coup, c'est vrai, j'ai pas l'habitude d'être avec des obsédés sexuels, donc. Grosso modo, pour ceux qui ne connaissent pas, l'apéro du capitaine, c'est quoi?
Alors, qui c'est qui veut dire, parce que je peux pas parler tout seul, donc on va laisser leur ton père définir l'apéro.
Alors, l'apéro du capitaine, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord des gens beaux. Nous sommes beaux.
Ça, c'est vrai.
C'est particulièrement beau. Mesdames, on va vous donner notre adresse après l'émission. Je suis la deuxième chose, c'est que nous sommes bourrés. Nous avons bu. Et ensuite, c'est que nous parlons de sujets extrêmement passionnants. Nos auditeurs sont ravis. Nous
avons des mails. Tu veux dire l'auditeur?
Oui, c'est ça.
L'auditeur mystère dont.
C'était moi, effectivement, qui était la femme de Quapos.
Non, je veux dire que si c'était pas ma femme, elle n'a pas réussi à se connecter.
Nous avions deux auditeurs la dernière fois. Je crois que plus sérieusement, l'apéro du Capitaine, c'est un petit peu une grosse déconnade entre quatre mecs qui se connaissent depuis pas mal d'années.
Ah bon?
Qui sont un peu passionnés d'informatique, mais aussi de raconter des grosses conneries.
Qui ont partagé la même cellule.
Et notre but, un petit peu, c'est de faire marrer un peu nos auditeurs. Je sais pas si on y arrive.
Ouais. Ça a marché pour un auditeur au minimum. Hein.
Je confirme.
Pour moi, et j'ai donc au moins deux avec Mathieu Blanco. Puis j'ai de grandes il y a des grandes probabilités pour le reste de l'équipe aussi, hein, dans l'idée.
Donc, merci.
Sachant qu'il y a même une femme de sexe féminin de Lord ton père, si j'ai bien compris, hein, c'est notre responsable communication, hein, c'est Vla. Donc le problème c'est que je lui ai filé ton adresse, hein, LTP. Donc essaie de régler les réglages de spam, sinon tu vas avoir des problèmes. Hein,
quelle adresse?
Non mais je vais pas donner. Mais alors, il y a Pauvre dans le chat qui
dit. Je suis à sa disposition.
Ah, bah c'est sympa ça. Donc, Vla, hein, t'as une ouverture.
Elle sera déçue.
Ouais. Par contre, ça serait bien si ça n'envenimait pas les relations entre Pod Radio et l'apéro du capitaine, hein, s'il vous plaît. Si on essayait de pas mélanger.
Les coups de fouet,
enfin bref, non mais sinon c'est vrai quand même que on va dire que si on devait définir en une seule expression, c'est quand même largement politiquement incorrect quoi. Votre émission.
Ah bon, pas du tout.
Pas du tout. Non.
Je suis pas d'accord.
Ah ouais, tu définirais comment en une seule expression? Grivois.
Le bon politiquement correct ou le l'impolitiquement correct?
Non, le politique, mais je disais politiquement incorrect. Je disais.
Oh non, on parle de choses assez classiques, on a un langage relativement châtié.
Châtier ou de Chartier?
Ouais, c'est plutôt ça, ouais.
Non, c'est pas du tout politiquement correct, mais on est un peu old school, on remonte aux années 80 où le politiquement correct n'était pas la règle à l'époque.
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'intéressant avec le Captain Web, c'est que c'est le côté authentique. Hein, j'allais dire, c'est un peu comme un truc creux qu'on a ressorti derrière la poubelle de chez l'ami. Mais là, c'est vrai qu'il pique un peu, il rappelle les bons vieux souvenirs de douleur au foie et mal cuite. Mais bon, il y a ce petit truc nostalgique, un peu mélancolique, un peu frais.
Enfin. Ouais, c'est un peu. Mais par contre, sérieusement, il y a quand même une. Là, vous disiez qu'il n'y avait pas de préparation, il y en a quand même une.
Il y a quand même une personne qui prépare un plan parce que c'est vraiment super bien enregistré. Moi, je trouve ça génial.
Non, mais on est professionnel ou on ne l'est pas.
vous êtes entre les deux, vous n'avez pas vraiment décidé. C'est-à-dire qu'il y a un côté très pro. Au niveau, franchement, vous faites les cons en disant que vous préparez pas, mais sérieusement, vous avez plus de préparation que moi pour le débat docté, c'est obligé quoi.
On est ultra coaché, on a 30 personnes derrière nous.
Les Chinois principalement.
Voilà, c'est pour ça qu'on est dans une cave. Hein, voilà.
C'est pas des Chinois, mais ils ont moins de 5 ans.
Ambulance. J'avoue que ça aurait pas pu lui tomber.
Mais
non, mais sérieusement, voilà, comme disait Mathieu, il y a un fil conducteur et je m'y connais hein, en fil conducteur.
C'est un pro de l'électronique, il faut savoir.
Non, c'est pas pour ça. Vous avez déjà préparé à l'avance les sujets, dans quelle heure vous allez les faire. Il y a une chronique qui est faite. Vous faites en condensé ce que nous on fait avec une équipe de 15 personnes en une semaine, quoi. Sauf que vous arrivez à le condenser en une heure et demie, quoi.
L'explication est assez simple finalement.
La bière.
Entre autres. Mais non seulement nous sommes beaux, mais en plus nous sommes intelligents. On est d'ailleurs les BMB, beaux, musclés, bronzés.
On peut le dire, on se prépare quand même, en effet, un petit peu à l'avance, un quart d'heure avant, c'est à peu près ce qu'on va dire.
Voilà, environ.
Et malheureusement, c'est vrai.
Non, mais l'essentiel dans la vie, c'est un peu une allégorie de la vie, hein. C'est la structure. Voilà. Il faut avoir une sorte de condensation, une sorte de
structuration.
Voilà, une sorte de structuration cérébrale.
Un plan en deux parties avec deux sous-parties.
Voilà.
Bon.
Sommes tellement stables et tellement.
Il faut bien dire ce qu'il y a, c'est qu'on a un très bon ingénieur du son, en personne de Quacos, ouais, qui nous a préparé une installation qui est pas mal, honnêtement. On n'a pas trop à se plaindre déjà du côté technique. Donc, après, pour les sujets, on se prépare un peu à l'avance, oui, 5-10 minutes.
Ouais. Bah, c'est déjà plus que ce que je fais. Mais...
C'est déjà bien.
C'est déjà plus que ce qu'on fait pour la matinale quand tu calcules, mais.
Je dois avouer que les jingles m'ont pris à peu près 10 minutes à faire.
Ouais, bah écoute, nous, malheureusement, nous on a pris dans iTunes, tu vois, puis on a récupéré. Voilà, donc nous, ça n'a pas pris 10 secondes. Hein. Pour la matinale, par exemple, ça a pris le temps de le récupérer, quoi.
Moi, j'ai pris quelques morceaux de voix de Manox et puis je les ai collés. En tout cas, moi, j'ai envie de dire quand même, j'ai envie de vous remercier. Merci d'être là avec nous ce soir.
Oui, puis merci de nous avoir fait de la pub, surtout parce que Mathieu a quand même fait une sacrée pub pour nous, pas de radio aussi.
Bah, en même temps, ça va. On fait pas de la pub quand vous êtes déjà là, quoi. Mais bon, justement, vu que tu lançais justement le fait de remercier et dire au revoir, il nous reste 3 minutes. Donc il faudrait conclure. Je vais commencer
Écoute,
par vous remercier d'être
venu. Voilà.
D'accord, retourne-toi. Je vais commencer déjà par vous remercier d'être venu. Mathieu a l'habitude, donc je remercie quand même. Mais bon, c'est un peu comme s'il était chez lui à force. D'ailleurs, il faudrait l'appeler le débat de Docté, MacJT, Wheel of Mac. Hein, mais ça fait un peu compliqué à faire un truc qui marche bien. Je remercie aussi donc toute l'équipe du Captain Web que je vais essayer de ressortir de tête. Attention. Donc forcément, il y a le Captain Web. Il y a Quacos, Manox et Lord ton père. Voilà. Je suis arrivé à tout les sortir.
Merci.
Voilà. Eh bien, écoutez, vous avez un enregistrement là d'ailleurs dans pas longtemps.
Tout de suite ce soir.
Tout de suite ce soir.
D'ici une heure, on passe en live normalement.
D'accord.
Donc
voilà. Il faut d'énergie pour.
Sans plaisanter, en tout cas, merci de nous avoir invités. C'est vraiment.
Oui. Mais vous êtes les bienvenus. Vous revenez quand vous voulez, quoi. C'est un plaisir.
On fera la semaine prochaine, puis celle d'après, puis.
Bah écoute.
Est-ce que vous pouvez venir?
La semaine d'après, on a un Apple event, donc on va déjà être pas mal. Justement,
ouais, si t'es pas là, c'est pas grave, on s'occupe de ton émission.
Je profite aux gens pour en parler. Je vais finir.
J'en profite à ceux qui nous écoutent ou qui vont nous écouter que non seulement il y aura l'équipe de Pod Radio, je serai là aussi pour le live, mais on aura aussi en exclusivité une personne dont on peut pas dire le nom, mais qui travaille chez Apple et qui va notamment pouvoir nous donner des informations.
On appellera Monsieur SJ.
Sous le menton,
oui, c'est bien,
oui,
ça.
Pardon,
bien.
C'est.
Où est-ce que vous êtes géographiquement?
Je suis
DTC.
Partout.
Bonne réponse.
Bon, sur cette bêtise, on est à peu près aux quatre coins de la France. Je pense que Mathieu est à Lyon. Moi, je suis à Montpellier. Enfin, normalement. Ah oui, non. Oui, je suis à Montpellier. Et non, parce que j'ai pas décollé mes yeux de l'écran depuis un petit moment, donc on aurait pu me transporter. Et vous êtes de Paris, sûrement.
Paris.
Voilà.
Paris, sous-sol.
Oui, tout seul.
En zone inondable, hein, niveau,
ah, c'est sympa, ça.
Les quatre cons, on parle.
Voilà. Bon, eh bien, messieurs, on va conclure. Et puis, pour ceux qui nous écoutent en live sur Pod Radio, je vous souhaite une très bonne soirée et je souhaite ce qui reste de la journée à ceux qui nous écoutent en podcast. Et puis, donc, on se dit à la semaine prochaine.
Et n'oubliez pas, dans une heure, donc, le live du Captain Web.
Voilà. Oui, surtout pour ceux qui nous écoutent en podcast.
Voilà. Le deuxième auditeur a vraiment un cadeau.